Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué. Sur les ondes de radio. Bienvenue dans les portes de la connaissance. Aujourd'hui, on a encore et on a un invité de marque, Jean-Luc Aubarbier, qui est un habitué maintenant de la radio, Dominique Lormier, qui est un habitué aussi, et on a Jean-Luc. Jean-Luc qui vient nous parler aujourd'hui, après, on va parler de différents ouvrages dont nous avons développé dans d'autres émissions. Aujourd'hui, on va parler du testament noir. Alors, on va voir avec lui de quoi il s'agit et on va faire une belle émission avec Jean-Luc. Alors, Jean-Luc, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as écrit un livre qui s'appelle Le testament noir. C'est quoi ? Ça parle de quoi exactement ?
Alors, le testament noir, le thème central du testament noir, c'est un de mes thrillers, et donc, comme les précédents qu'on a évoqués, donc avec mes deux héros archéologues, Pierre Cavaignac et Marjane Karadec, et le thème central de ce testament noir, ce sont les liens qui se sont développés entre les nazis et les islamistes dans les années 30 et qui ont encore les effets, je dirais, aujourd'hui à travers le terrorisme islamique que nous connaissons depuis quelques décennies. Donc, c'est un thème qui est à la fois très actuel, qui remue beaucoup de choses, qui nous touche en même temps, même à travers l'histoire, je dirais. Alors le testament noir, ça commence, un petit peu comme le précédent, comme le côté de Mac qui commence aux États-Unis pour se poursuivre en France, là c'est pareil. Nous commençons aux États-Unis et nous poursuivons toute l'histoire à Toulouse, là, dans la cité, la ville rose. Aux États-Unis, le premier chapitre de ce testament noir, nous sommes à San Diego, en Californie. Et il y a un vieux monsieur dont on apprendra qu'il est le père de Pierre Cavaignac, qui se trouve sur les hauteurs de San Diego, qui est un port militaire. Il vit en Suisse, un homme militaire. On apprendra qu'il a été agent secret, qu'il a travaillé dans la résistance et puis pour la CIA. Enfin, c'est un homme assez intéressant, assez mystérieux. Il est dans son jacuzzi, là, au-dessus de la baie de San Diego. Et il est assassiné. Il est assassiné et nous sommes le 10 septembre 2001. C'est une date, évidemment, qui est la veille de, d'une date malheureusement célèbre, qui est célèbre dans les annales du monde entier. Donc, le lendemain, c'est le 11 septembre, c'est l'attaque des terroristes sur les Twin Towers. C'est un affolement, et au milieu de cette pagaille, les héros donc sont en France à ce moment-là. Ben Pierre apprend donc que son père a été assassiné et qu'il faut qu'il à la Californie. Donc le voyage est un peu compliqué, puisque c'est pas très facile de voyager aux États-Unis à ce moment-là, dans cette pagaille énorme. Et donc Pierre arrive à gagner avec sa compagne sur les lieux sur San Diego en Californie. Il a des tas d'ennuis avec l'administration américaine, complètement suspicieuse et complètement paranoïaque à cette époque-là, comme elle est un peu maintenant d'ailleurs, je crois, dans la mesure où il a pris des cours d'avion pour passer sur son brevet de pilote, et dans la même école que lui, il y avait un des terroristes qui avait appris à piloter et à décoller et à ne pas atterrir, donc on le soupçonne de tout. Il croise des gens un peu louches dans cette histoire, jusqu'au moment où il est même jeté en prison, et jusqu'au moment où sa compagne Marjolaine fait intervenir un homme qu'elle a connu quand elle était elle-même étudiante aux États-Unis, qui est le directeur adjoint de la CIA, qui s'appelle Brett Daniels, et Brett Daniels va faire libérer Pierre, et il va le mettre un petit peu au parfum, je dirais, sur le rôle qu'a joué son père dans les services secrets, et sur une menace, donc, d'un terrorisme mondial qui, par-delà le 11 septembre, vise à étendre un petit peu sa main noire sur toute la sur le monde entier. Et notamment, il se lance sur la piste d'une terroriste, une femme qui s'appelle Afia Kaibouli. Je me suis inspiré d'un personnage réel d'ailleurs pour créer ce personnage, une femme qui effectivement est une des tueuses d'Al-Qaïda. Voilà, je parlais donc de cette terroriste surnommée la Veuve Noire, Afia Kaibouli, donc qui a réellement existé. Je l'ai mis dans mon roman, mais je me suis inspiré d'un personnage réel. Hein. Et ce personnage, donc, qui est une tueuse d'Al-Qaïda, est lancé sur la piste d'une relique, en définitive. Le chef de la CIA va dire à Pierre et à Marjolaine qu'Al-Qaïda voudrait réutiliser une relique qui est la lance qui a percé le flanc du Christ et qui est censée donner la victoire à toutes les armées qui portent cette relique à l'avant de ses combats. Donc, mes héros archéologues vont donc partir à la recherche de cette relique. Alors, c'est intéressant parce qu'il existe plein de lances censées être la lance authentique qui a percé le flanc du Christ. Il y en a partout dans le monde, enfin, notamment, il y en a en Europe, il y en a en Autriche, il y en a en Pologne, il y en a un peu partout. Et donc, ceux qui sont tour à tour volés par les terroristes islamiques. Et lorsqu'ils rentrent en France, mes héros, qui étaient aux États-Unis pour gagner leur maison du Périgord, Pierre s'aperçoit qu'avant de mourir, son père lui a envoyé un colis dans lequel se trouve un des éléments, un des morceaux de cette sainte lance, et en lui disant que la sainte lance a été découpée en 12 parties pour diminuer son pouvoir en quelque sorte, pour qu'on puisse, qu'il faut les rassembler pour qu'elle redevienne cet objet qui donne la victoire aux armées qui la possèdent. On sait que Hitler, par exemple, s'est emparé d'une sainte lance qui est dans un musée autrichien pour s'assurer la victoire. Or, il s'avère que cette sainte lance, ce n'est pas la vraie. Hein. Voilà. Donc, mes héros, partant du morceau qu'ils ont trouvé, ils ont eux-mêmes mené des recherches au Proche-Orient, ils avaient déjà trouvé quelque chose. Donc, ils vont se lancer sur la quête pour empêcher, bien sûr, l'Al-Qaïda de reconstituer la lance. Et ils vont notamment se rendre à Toulouse, puisqu'à Toulouse, c'est la cité des comtes de Toulouse, c'est la cité des comtes de Toulouse qui ont mené la première croisade et qui ont mis la main, et ça c'est tout à fait là, c'est dans la partie du légendaire de la première croisade, les comtes de Toulouse qui auraient mis la main effectivement sur cette relique. Donc on va avoir, le roman va se développer très longuement à travers une course à travers la ville rose entre mes héros qui suivent une sorte de jeu de piste pour retrouver le reste de la relique, et puis bien sûr les éléments de l'Al-Qaïda menés par cette tueuse Aïfia Kaïbouli, qui a des combats en Toulouse, on s'en souvient peut-être, mais juste après le 11 septembre 2001, il y a eu une explosion à Toulouse, la fameuse explosion de la ZF, dont on s'est demandé si elle était un acte terroriste ou pas. C'est là que la question a été posée. Hein. Donc bien sûr, dans le roman, moi je le développe comme un acte terroriste, comme un élément destiné à détourner les forces de l'ordre pendant que les forces noires se livrent à cette recherche en compétition avec des héros.
Alors, une question qui me vient à l'esprit, pourquoi Adolf Hitler était si attaché à l'islamisme, entre parenthèses, puisque il était très attiré par l'islam en général. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller vers ces gens, véritablement?
Alors, il y avait deux choses. Il y avait bien sûr, Hitler voyait dans les musulmans, qui sont à l'époque, je rappelle, dans les années 20-30, donc c'est l'époque coloniale. Le monde musulman est sous la coupe essentiellement des Français, des Anglais, des puissances coloniales. Et donc, bien sûr, Hitler, enfin politique qu'il est, va vouloir jouer sur la en disant « je vais vous libérer, moi Hitler, je serai le libérateur du monde musulman, ralliez-vous à moi », et il va effectivement tenter de radier les musulmans dans son escarcelle. Il va y réussir partiellement, mais très partiellement, mais en partie quand même, on va en parler. Et puis, bien sûr, il y a le côté un peu mystique. Le nazisme, c'est une sorte de secte, donc quelque part, pour eux, en agissant sur des symboles, en agissant sur des éléments, on va dominer le monde. Il déclare au chef des musulmans de l'époque, qui s'appelle Hajj Amin al-Husseini, il déclare que voilà, que les musulmans, les Arabes sont un peuple apte à dominer le monde, alors qu'il les avait mis dans les peuples inférieurs. Enfin, dans la première version de Mein Kampf, il les flatte pour pouvoir en faire ses alliés. Et alors dans ce roman, on va, comme toujours dans mes romans, dans mes thrillers, on alterne deux chapitres de nos jours, deux chapitres dans le passé, donc deux chapitres en 2001, deux chapitres dans le passé. Et le passé, nous sommes dans les années, dans les années 20 et 30, justement, où un jeune juif a été embauché par les Anglais pour espionner, je dirais en quelque sorte, les premiers mouvements indépendantistes et islamiques qui apparaissent à ce moment-là. Et notamment, le fameux Hajj Amin al-Husseini, qui se trouve être l'oncle de Yasser Arafat, hein, qui est élu en 1921 grand mufti de Jérusalem et qui prend un peu le leadership sur le monde musulman, va passer des alliances très fructueuses avec Hitler, d'une part avec les frères musulmans, d'autre part avec Adolf Hitler, et pour montrer une sorte de collaboration très très prometteuse dès les années 30. Dès les années 30, on est vraiment dans cet univers-là particulièrement complexe. Et Hitler, d'ailleurs, enverra en 1937 un représentant de la quelqu'un qui est le monsieur islam de la SS, et qui est très connu aujourd'hui, puisque c'est Adolf Eichmann. Avant d'être monsieur extermination, il est monsieur islam dans la SS, et il va passer des accords effectivement avec Hajj Amin al-Husseini et avec les frères musulmans avec la mission. Bien sûr, la mission, c'est chasser les juifs et détruire les juifs qui sont installés en Palestine, chasser les Anglais et les Français et donner toute la région aux Allemands. C'est pas juste un petit accord de rien du tout, puisqu'en 1941, 4 ans plus tard, quand la guerre aura éclaté, on verra successivement l'Irak, puis l'Iran. Il y aura un putsch organisé par Husseini, et l'Irak et l'Iran vont se rallier au Reich, et Churchill enverra les troupes pour détruire ce gouvernement putschiste, parce qu'effectivement, ce que veut Hitler, c'est à la fois le pétrole, le monde arabe, c'est le monde du pétrole, bien entendu, et c'est le monde de l'islam, donc il veut à la fois du pétrole et des soldats. C'est ça que veut fondamentalement Adolf Hitler, c'est ça l'enjeu de cette course, je dirais, qui va se jouer dans les années 20 et 30. Et alors le jeune juif qui s'appelle Joseph Birenbaum, avec sa fille, qui s'appelle Rachel, va donc espionner dans Jérusalem, en Irak, en Iran, et nous raconter, on suit à travers lui ce personnage très étrange, Hajj Amin al-Husseini, qui, après les échecs des putschs en Irak et en Iran, va gagner Berlin. Il va travailler pour l'Allemagne avec un ensemble de radios en diverses langues de là où partout il y a des musulmans, il y a ici des avis sur la radio, et ils appellent les musulmans du monde entier à se lever contre le, à la fois contre le communisme de Staline, et puis contre les Anglais et les Français, colonialistes évidemment. Donc on essaie de recruter des hommes, et ils recruteront effectivement plusieurs divisions, hein, des Albanais, des Bosniaques, tous les peuples soviétiques musulmans qui ont été conquis par Staline, et bien sûr qui sont plutôt en rébellion, vont envoyer des troupes qui combattront dans l'armée allemande, et certaines de ces troupes d'ailleurs combattront en France. Hein, en Norvège, chez moi, on a eu des troupes musulmanes.
D'accord. Alors, Adolf Hitler était un homme habile dans sa façon de gouverner. C'était un guerrier, évidemment, puisqu'on était dans une période de guerre, mais il avait cette fibre particulière, c'est que c'était un homme habile, et il avait cette façon de gérer les affaires qui était une façon, je dirais, d'un grand personnage. Je sais pas pour lui jeter des fleurs, parce que évidemment on a subi la guerre de plein fouet, et les juifs aussi.
Il n'en mérite pas.
Donc on sait pas pour lui jeter des fleurs, mais il faut reconnaître ce qui est vrai. C'était un homme habile, et il avait la façon et l'art de manier la guerre et de manier les affaires. Donc voilà, c'était une parenthèse ouverte à cette guerre.
C'est un stratège, alors on voit très bien sa stratégie quand on étudie ce que dans le Testament noir, bon, qui est un roman, hein, mais on étudie quand même un peu la géopolitique. On voit bien que quand il veut faire basculer l'Iran et l'Irak dans son camp, c'est pour prendre l'Égypte anglaise et le canal de Suez en pince. Il y a Rommel d'un côté qui est en Libye, et donc si le Proche-Orient tombait dans son escarcelle, il chassait les Anglais. Et comme il échoue à cet endroit-là, quand il attaque quelques mois plus tard l'URSS, la troisième armée, celle qui part par le sud, il y en a une sur Moscou, une sur Leningrad, et celle qui est bloquée à Stalingrad, en fait, c'est pas Stalingrad, son objectif, Stalingrad n'a pas beaucoup d'importance, c'est de pouvoir aller vers le sud, s'emparer de la Crimée, s'emparer et revenir sur le monde musulman, revenir sur le monde là où il y a du pétrole et là où il y a des musulmans qui les fourniront de la troupe. Il fait une grande boucle qui aurait à nouveau pris des Anglais, encerclé des Anglais. Heureusement, les Soviétiques ont arrêté Hitler à Stalingrad, donc c'est tant mieux, parce que sinon, les Anglais auraient été en fâcheuse posture.
En fait, ce qu'on arrive à comprendre, c'est que dans l'art politique de manier la guerre, il avait des alliés puissants, puisque le monde musulman, ce sont des gens qui sont souvent intégristes et souvent dirigés par l'art de la guerre. Eux aussi, ce sont des guerriers. Donc, il avait un peuple avec lui qui était puissant, et il aurait pu effectivement les avoir à son avantage pour avoir la possibilité de vaincre d'autres territoires que les territoires qu'il pouvait vaincre avec sa propre armée. Est-ce que je me trompe ?
Bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Et là, surtout, c'est l'époque où se crée la société probablement la plus dangereuse et qui est à l'origine de tous les islamismes d'aujourd'hui, ce sont les frères musulmans. Les frères musulmans se créent en 1928. C'est Hassan al-Banna, c'est un égyptien, ça se crée en Égypte. C'est le grand-père de Tariq Ramadan, encore une fois, quelqu'un qu'on connaît bien, et qui font des frères musulmans qui vont rayonner sur tout le monde musulman avec une vision complètement intégriste. Et si on lit les textes écrits par Hassan al-Banna dans les années 30, on a exactement Daesh, Al-Qaïda, enfin, on a le même discours, mais exactement le même discours, et avec une visée, effectivement, de conquérir le monde. Alors là, je ne suis pas complotiste, mais là, c'est clair, les femmes musulmanes ont une vision qui est de conquérir le monde, d'imposer l'islam sur le monde entier. Et donc, ça intéresse Hitler. Je ne suis pas sûr, d'ailleurs, que les femmes musulmanes aient été complètement dupes du nazisme. C'est pour ça que ça n'a pas très bien marché, parce que les nazis sont quand même pour eux des païens, sont quand même pour eux des gens qui ne les respectent pas forcément. Ils savent bien quand même qu'ils n'aiment pas spécialement les Arabes. Sauf que cet intégrisme musulman va survivre. Le nazisme va disparaître, va être vaincu, heureusement. Il va disparaître quasiment. Enfin, il n'en reste à peu près rien au niveau du pouvoir. Mais l'islamisme, lui, qui a grandi en même temps que lui, et qui a grandi avec sa complicité, et puis on le voit bien, il va rester caché pendant des décennies, et à partir de la fin du XXe siècle, il explose, et notamment, bien sûr, le 11 septembre, c'est le début, c'est pas le 11 septembre 2001, c'est le début d'un siècle, c'est le début d'un millénaire, et c'est le début de quelque chose de tout à fait nouveau que nous vivons aujourd'hui.
D'accord. Pour nos auditeurs, on va faire une page de musique. On va arrêter l'émission pendant quelques minutes. On va passer une musique de guerre, justement, sur le thème de la guerre 39-45. Et on se retrouve tout de suite après cette musique. Allez, à tout de suite.
À tout de suite.
Après cette pause musicale sur le thème de la guerre, évidemment, on revient avec Jean-Luc Aubarbier qui est notre invité aujourd'hui et on parle d'un livre qui s'appelle Le Testament Noir. Alors pour ceux qui nous rejoignent dans l'émission, surtout vous pouvez écouter l'émission en podcast et vous pouvez la réécouter entièrement pour avoir le complet de l'émission. Alors Jean-Luc, une question me vient à l'esprit après avoir parlé des rapports qu'il y avait entre le monde musulman et Adolf Hitler. Il était quand même très penché sur tout ce qui était ésotérique, Adolf Hitler.
Oui, mais d'abord, il y a l'ésotérisme nazi qui existe, qui a été en grande partie d'ailleurs fondée par Himmler. C'est Himmler qui était le grand ésotériste de nazisme. Alors on sait qu'Hitler se moquait un peu de lui, mais en même temps, on a quand même de nombreux témoignages où Hitler fonctionne un peu comme s'il voyait des, il voyait des fantômes, comme s'il voyait des choses qui n'existaient pas, ou que, en tout cas que les autres ne voyaient pas. Et on sait que notamment par rapport à cette Sainte Lance qui était gardée à Vienne, dont on sait que c'était une relique qui est fausse, ça peu importe, on sait qu'il a eu une sorte de crise d'épilepsie, enfin, il s'est évanoui, on l'a trouvé évanoui devant la Sainte Lance quand il est allé la contempler à Vienne, et puis il l'a fait prendre pour la ramener à Berlin, car effectivement, elle est censée conduire les armées à la victoire, ce qui est le grand thème que j'ai repris dans mon roman, en imaginant que, donc, que les musulmans voulaient s'emparer de cette Sainte Lance découpée en 12 morceaux pour la reconstituer et amener l'armée islamique radicale à la victoire.
D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ton roman, justement, sur ton livre, qui est un roman, mais qui est en même temps basé sur des faits réels? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Alors, il faut surtout, on peut parler de Toulouse, surtout Toulouse, qui est une cité extrêmement intéressante, parce que c'est une très vieille ville. J'ai dit, c'était la capitale des comtes de Toulouse, qui ont ramené des croisades, certains éléments, donc on peut imaginer effectivement que cette Sainte Lance, dont on dit qu'elle était alors en possession, a été ramenée en totalité ou en morceaux dans la ville de Toulouse. Alors à Toulouse, j'ai découvert qu'il y avait à Saint-Cernin, tout le monde connaît l'église Saint-Cernin, bien entendu, l'église de briques rouges, il y avait une pierre dans la muraille, près du pont à la Porte des Comtes, il y a une pierre brute qui a été mise dans le mur et qu'on appelle la pierre de Jérusalem, qui serait une des pierres qui aurait appartenu au temple de Salomon, là où les Templiers étaient basés après la première croisade. Et donc, on montre encore un peu, les Toulousains souvent ne le savent pas, mais il y a cette pierre de Jérusalem. Alors, dans mon roman, évidemment, elle va être l'endroit qui va indiquer où mes héros vont trouver des éléments une sorte de jeu de piste en quelque sorte qui va les promener dans les grands monuments de Toulouse. Alors, il y a une sorte de visite de Toulouse, mais sur les pas de mes héros et sur les pas des islamistes qui leur courent après en quelque sorte. On va découvrir cet endroit magique, donc à Saint-Cernin. On va découvrir la palmerie des Jacobins. La palmerie, là aussi, c'est un ensemble architectural qui ressemble à un immense palmier de pierre dans lequel mes héros vont trouver d'autres choses, d'autres éléments, et ils vont courir un petit peu, je dirais, ils vont traverser à la fois la Toulouse médiévale, la Toulouse de l'époque cathare, c'est la même époque, l'époque des comtes de Toulouse ont créé leur immense comté à l'époque cathare, donc on trouve un petit peu des restes de tous les grands mouvements historiques de Toulouse au Moyen-Âge, jusqu'au moment où ils vont pouvoir mettre la main sur les derniers éléments de la Sainte Lance pour empêcher les islamistes de la conquérir. Mais ça, je ne vous dis pas exactement comment ça va se passer, ça on va le découvrir dans le roman. Et il y a une partie du roman aussi qui va se passer tout près de Toulouse, dans l'Ariège, à Artigat. Parce qu'Artigat, c'est un endroit où se trouvait, peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, une ferme où se réunissaient les islamistes, où les grands terroristes islamiques qu'on va retrouver à Daesh, par exemple, sont passés. Les services secrets français surveillent l'endroit de tous les temps. Alors là aussi, mes héros vont être, Pierre va être prisonnier, va être capturé par Aïssia Kaïbouli à un moment donné et enfermé dans cette ferme d'Artigat à côté de Toulouse. Voilà, dans les Piémonts pyrénéens. Donc voilà, vous voyez qu'on va beaucoup bouger dans la ville rose, on va visiter la ville rose, sur l'ancienne commande des Templières, sur l'ancienne commande des Hospitalières, on va découvrir des endroits magnifiques, c'est une très belle ville, hein, avec beaucoup de souvenirs historiques, sur les pas de cette Sainte Lance dont on va découvrir tout à fait à la fin le mystère.
D'accord. Alors, à Toulouse, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette ville de Toulouse par rapport à cette épopée? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Alors, je fais de Toulouse effectivement le cœur un petit peu, le cœur battant de ce mystère des liens entre l'islamisme et le nazisme. Un de mes héros, le parrain maçonnique de Pierre Cavaignac, qu'on a déjà vu dans le premier tome, il apparaît dans tous les tomes, qui s'appelle Raymond Senestre, qui était jeune résistant, Et il s'est retrouvé dans la résistance avec le père de Pierre, et ils sont allés à Toulouse, et ils ont caché, voilà, c'est eux qui sont allés chercher et qui ont dissimulé cet élément que mes héros vont chercher. Et donc, voilà, il va apporter une contribution historique, il va faire le lien historique entre l'époque de des années 30-40, où l'islamisme et le nazisme marchent main dans la main, on va dire, pour la conquête du monde, et puis le monde d'aujourd'hui, où renouveau du terrorisme islamique semble mettre à nouveau les fanatiques musulmans, je ne parle pas des musulmans pacifiques, qui sont des gens tout à fait respectables, mais les fanatiques musulmans autour des frères musulmans se sont mis en marche. Donc on va faire le lien comme ça entre l'époque de la guerre et aujourd'hui, parce qu'effectivement nous sommes en prise directe, je pourrais dire, avec cette époque-là. On n'en est pas sorti encore complètement de la guerre.
Alors, quels sont les pays qu'Adolf Hitler, sur le plan arabe, a-t-il réuni? Quels sont les pays qu'il a réunis? Quels sont les pays qu'il a attirés vers lui avec cet accord?
Il a créé déjà deux divisions SS bosniaques, dont une s'est entraînée en France, d'ailleurs, entre l'Aveyron et Auvergne, et là, il est la région du Puy. Mais il n'a pas combattu en France, ils sont combattus en Yougoslavie. Les deux divisions, ça fait quand même déjà deux divisions, c'est 20 000 hommes à peu près, hein, grosso modo, donc ça fait quand même deux divisions bosniaques. Il y a une division albanaise qui a été réunie, il y a des Azéris, un chef azéri qui les a rejoints, qui a eu une armée azérie qui a combattu les azéris, on les a vus, ils ont combattu en France, notamment contre la résistance. Ils sont beaucoup utilisés contre la résistance. On aura des Tchétchènes, bien entendu. Il y aura beaucoup de gens qui vont s'engager dans l'armée allemande, des Palestiniens, des Égyptiens, on va les retrouver également dans cette armée. Et on aura la brigade, la célèbre brigade nord-africaine, que l'on va retrouver en Dordogne et en Corrèze. C'est comme ça que j'ai mis la main sur cette histoire, en commençant par ça, en travaillant l'histoire de la Dordogne. Et effectivement, il y a une brigade nord-africaine qui va s'engager pour combattre à côté de la police allemande et qui va combattre la résistance. Et cette brigade nord-africaine, au départ, c'est un indépendantiste algérien qui s'est présenté aux Allemands pour dire « je vais combattre à vos côtés contre les Français ». Et les Allemands sont un peu méfiants parce qu'ils veulent pas déplaire à Pétain, donc ils envoient ce gars qui s'appelle Mohamed El Mahadi, ils l'envoient à la Gestapo française à Paris, et il va travailler avec la Gestapo française qui est faite de truands, qui est faite des parrains de la pègre parisienne, la rue Auriston, comme on dit, ou la Carlingue, c'est comme ça qu'on les appelle, et ils vont effectivement monter une brigade qui va se battre en Dordogne et en Corrèze contre la résistance. Qui exécuteront énormément de gens qui sont comportés comme des barbares.
Alors, on a l'impression que, comme dans Indiana Jones et la dernière croisade, on a des Allemands qui partent à la conquête de la terre, carrément. C'est plus une petite guerre contre la France et contre certains pays, c'est carrément une guerre mondiale. C'est pour ça qu'on l'appelle la guerre mondiale, d'ailleurs. Parce que on a l'impression qu'il avait tellement d'ambition, il était tellement ambitieux, Adolf Hitler, qu'il voulait régner carrément sur le monde. Et si personne ne l'avait arrêté, et qu'il avait été jusqu'à la course de l'armement avec la bombe atomique, il aurait peut-être régné sur la Terre. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être extrêmement grave. Donc,
tu as raison. Le projet initial des nazismes, c'est de régner sur le monde et d'une part de réduire les peuples en esclavage. Le nazisme, c'est d'abord un projet d'esclavage. Les peuples qui sont pas supérieurs sont réduits en esclavage et progressivement éliminés. On commence par les juifs parce que c'est un peuple racine, parce que c'est la racine du monde judéo-chrétien, évidemment. Mais petit à petit, c'était élimination des slaves, élimination des noirs. Alors au début, les arabes, étant des sémites, sont considérés comme une race inférieure. Dans la première version de Mein Kampf, c'est marqué comme ça. Mais comme Mein Kampf est traduit en langue arabe, c'est un syrien, je crois, qui traduit ça en langue arabe. Et alors là, on change le texte, quoi, pour que le monde arabe puisse devenir un peuple apte à diriger, à gouverner le monde aux côtés des Allemands. Évidemment, c'est pour essayer de soulever aux côtés des Allemands le monde musulman. Alors, c'est là que partiellement m'a réussi. Encore une fois, c'est très partiellement. Le monde musulman est resté plutôt sage dans l'ensemble. Il n'a pas basculé du côté des nazis. D'abord parce que Churchill était très habile à proposer l'indépendance dès la fin de la guerre. Il a dit si vous restez là dans mon camp, si vous ne vous révoltez pas contre nous, l'indépendance sera donnée en 1945, ce qui sera effectivement donné au moment de toutes les colonies britanniques partent. Toutes les colonies, en tout cas du monde musulman, partent en 1945. Il est là dans 1947.
D'accord. Alors, on a l'impression qu'il s'intéresse à tout ce qui est ésotérique, que ce soit bon ou mauvais. L'Arche d'Alliance, il était très intéressé de la récupérer et de se l'approprier. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il part en croisade carrément vers un monde spirituel ?
Alors spirituel, mais comme on dit, de la main gauche, c'est-à-dire qu'il est quand même tourné vers le mal, il n'est pas tourné vers le bien et l'union des humains derrière une spiritualité, ce qui a priori la quête spirituelle normale. Lui, c'est quand même c'est le contraire, quoi. C'est vraiment de la magie noire. C'est pour ça que le testament de Dieu s'appelle le testament noir. C'est le testament noir d'Hitler qui est repris aujourd'hui par le monde islamique terroriste, parce qu'effectivement, on est dans cette vague-là, on est dans cette manière de fonctionner. Les nazis craignaient la spiritualité. Ils ont emprisonné énormément de prêtres, par exemple. Les prêtres ont été déportés en masse parce qu'ils craignaient beaucoup l'Église catholique. Ils craignaient, elle était monocéphale, ils disaient, oh là, si le pape prend position contre moi, on est foutu. Donc effectivement, ils craignaient beaucoup, ils ont fait emprisonner beaucoup de prêtres, beaucoup de francs-maçons, tous les gens qui faisaient partie des puissances ésotériques et spirituelles ont été visés en particulier, et avec l'idée qu'il fallait voler leurs secrets. Toutes les loges maçonniques ont été vidées de leur contenu et amenées en Allemagne pour, parce qu'ils pensaient trouver je ne sais trop quel secret mystérieux qui lui aurait donné du pouvoir.
D'accord. Qu'est-ce que tu peux rajouter pour finir l'émission ? Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ton roman ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a pas dit encore ?
Alors, je pense qu'on a quand même bien fait le tour du système. Je me suis amusé à jouer un petit peu avec le côté un peu affolé des États-Unis après le 11 septembre, et qu'on voit aujourd'hui tout aussi affolé avec le règne de Trump, on va dire. C'est-à-dire que des fois, ils partent un petit peu en vrille, quoi. Il y a également une partie qui concerne la guerre d'Algérie, puisque le père de Pierre, celui qui est assassiné au début, là, qui s'appelle Hubert Cavaignac, il était officier, était tirant d'élite, donc on avait surnommé le chasseur. Il éliminait les membres importants du FLN, et c'est pour ça qu'il était connu des terroristes islamiques qui avaient gardé en mémoire cet homme qui était un officier de l'armée française extrêmement efficace et extrêmement dangereux, et c'est pour ça qu'ils vont l'éliminer en quelque sorte. C'est ce gars qui a été agent secret, qui savait beaucoup de choses à leur égard. C'est pour ça que le roman commence par la mort du père de Pierre Cavaignac. Voilà.
D'accord. Merci Jean-Luc, merci pour ce témoignage sur ton roman, sur ce livre qui raconte des choses tirées de faits réels, puisque c'est un roman, mais c'est sous forme de roman, mais ça raconte l'histoire de la guerre et des alliances indirectes entre Adolf Hitler et le monde musulman et d'autres mondes spirituels. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. On te retrouvera certainement dans les émissions. On a fait pas mal d'émissions ensemble. On te retrouvera certainement pour de nouveaux livres, quand tu auras de nouveaux livres, de nouveaux ouvrages à écrire. Ce sera avec plaisir qu'on t'accueillera et qu'on fera des émissions avec toi.
Et je viendrai toujours avec plaisir, il n'y a pas de problème. Je suis à votre disposition.
Voilà, sache que on est écouté par quand même beaucoup d'auditeurs, et beaucoup d'auditeurs écoutent les émissions en rapport avec les romans et les livres. On a deux personnes, on a toi, on a Jean-Luc Aubarbier, donc toi, et on a Dominique Lormier. Vous êtes les deux personnes qui orné, je dirais, de la couronne d'or. Voilà un peu le monde des romans et des histoires vraies. Donc c'est avec.
Ah, c'est très gentil. Je connais très bien Dominique Lormier. On a fait beaucoup de salons ensemble. Donc effectivement, là, on a une passion pour cette époque de la Seconde Guerre mondiale où il s'est passé tellement de choses et il y a encore tellement de choses cachées qu'on ne s'en finirait pas de faire de l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale.
Bon, bah, ce sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera à nouveau. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment.
Merci.
Sachez, chers auditeurs, que pour la prochaine émission, vous regardez sur, comme je vous dis d'habitude, la page Facebook des auditeurs d'O2 Radio ont la parole et sur les émissions d'O2 Radio. Des portes de la connaissance, allez-y, n'hésitez pas à regarder. Les émissions sont prévues un mois à l'avance, donc un mois à l'avance, vous savez quel est le programme. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Si vous voulez des émissions qu'on n'a jamais proposées, des idées d'émissions, proposez-les et nous aviserons pour vous les proposer. Voilà, merci beaucoup, merci à Jean-Luc et à la prochaine fois.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Les portes de la connaissance. Une émission de Patrice Javel. Faites avec nous un voyage culturel dans le monde de la connaissance, la science et l'inexpliqué.